Bonsoir. 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme et à la jeune fille ont été lancés jeudi 25 novembre dernier. Le gouvernement congolais, à travers le ministère du Genre, Famille et Enfants, en partenariat avec ONU Femmes, se fixe comme objectif la promotion de la parité et l'autonomisation des femmes en RDC. Selon la représentante de l'ONU Femmes en RDC, les femmes et les filles subissent encore des violences et des discriminations multiples, d'où il faut attirer l'attention sur ce fléau afin d'y mettre fin. Quelle lecture faites-vous de l'organisation de ces 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre? Que faire pour promouvoir la participation politique des femmes en RDC? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce jeudi 2 décembre 2021. Participe au débat Esther Kiamwanya, directrice de cabinet de la ministre du Genre, Famille, Femmes et Enfants. Madame Kiamwanya, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Bénédicte Bassangi Zainabo, membre de la société civile, coordonnatrice adjointe de la Fédération des jeunes entrepreneurs du Congo, activiste au sein des Ligues des jeunes. Bénédicte Zainabo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et maître Rufa Louko, qui va nous rejoindre dans un tout petit moment, expert des questions sur les violences sexuelles. Comme je l'ai dit, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Vous êtes très nombreux, auditeurs des Radio Kapi, à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Dievar Kasitu Masukina, depuis la ville de Kenge, dans la province du Kwango. À mon avis, les violences faites aux femmes et surtout à la jeune fille est l'un des grands problèmes que le gouvernement congolais doit résoudre immédiatement. Pourquoi ne pas valoriser la jeune fille congolaise, par exemple en créant des centres de formation, en les encourageant à aller à l'école afin qu'elles soient cadres demain dans la société? Robert Baume est depuis Bukavu Sud-Kivu. La lutte de la femme pour ses droits n'est pas du tout mauvaise. Encore faut-il qu'elle le mérite réellement. En RDC, pour promouvoir la participation politique de la femme, il faut respecter et faire respecter la parité homme-femme telle que stipulée dans la Constitution. À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Commençons cette émission par ce drame qui s'est produit dans la province du Maïndombé. Une élève mineure est morte la nuit de mardi à mercredi après avoir été violée lundi 29 novembre par son enseignant. Les faits se sont passés à Oshoué dans le territoire du même nom. Nous sommes là dans la province du Maïndombé, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'après le ministre provincial de l'Intérieur qui confirme la nouvelle, les enquêtes sont lancées pour retrouver l'enseignant en cavale. Dans notre temps, certaines maisons ont été incendiées par la famille de la victime et la population en colère. Irène Boma pour le reportage.
Âgée de 10 ans seulement, cette fillette, élève de la 5e année primaire à l'EPE Ikula 3 à Oshoué dans la province du Maïndombé, a été violée lundi dernier par son enseignant Mitera Katuria, âgée de 39 ans, et est décédée les jours suivants. En représailles, la population d'Oshoué s'est livrée à la justice populaire et au total, 4 maisons, dont celle du présumé auteur et de ses membres de famille, ont été incendiées et plusieurs biens emportés. Une délégation de la police est déployée pour retrouver l'enseignant en cavale, a confirmé le ministre provincial de l'Intérieur du Maïndombé, Crispin Ipondo Banda, qui condamne cet acte ignoble.
Le gouverneur a instruit les bourgmestres comme le fait qui a commis le forfait et qu'ensuite, quelques proches de la personne qui était au courant de cette affaire, on les a déjà arrêtés et le gouverneur a donné des instructions et des moyens à la police pour pouvoir chasser les fugitifs de manière à ce qu'ils soient arrêtés.
Des sources locales indiquent que la victime a été inhumée mercredi dernier et sa famille démunie sollicite l'assistance des autorités ainsi que la poursuite des enquêtes pour rétablir les responsabilités. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Merci Irène pour ce reportage. Esther Kiamwanya, je rappelle que vous êtes directrice de cabinet de la ministre du Genre, Famille, Femmes et Enfants. Votre commentaire sur ce reportage que nous venons de suivre sur ce drame qui s'est produit dans la province du Maïndombé où une jeune mineure de 10 ans est décédée après avoir été violée par son enseignant.
En fait, je pense que c'est une attitude d'indignation. Le ministère du Genre, Famille et Enfants, et au nom de son Excellence Madame la Ministre, je voudrais à cette occasion pouvoir compatir avec cette famille éprouvée et dire exactement que nous sommes sur la lutte et que nous allons continuer à pouvoir appuyer toutes les actions en direction de la lutte contre l'impunité et la poursuite de l'auteur qui doit être puni d'une manière exemplaire. C'est vraiment une indignation pour nous de pouvoir encore une fois déplorer cette mort inutile et surtout cette petite fille. Vraiment, nous sommes indignés.
Esther Kamwania, 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme et à la jeune fille ont été lancés depuis jeudi 25 novembre dernier. Est-ce qu'on peut connaître le thème retenu au niveau de la RDC par rapport à ces 16 jours d'activisme?
Merci madame. Ça veut dire que généralement chaque année, pour les 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes, aux jeunes et aux petites filles, il y a un thème international. Pour cette année, c'est « Oranger le monde, mettons fin aux violences faites aux femmes aujourd'hui ». Et pour le thème national, c'est « Je m'élève et je m'engage aujourd'hui contre les violences faites aux femmes, aux jeunes filles et aux petites filles ».
C'est un slogan qu'on a souvent entendu en RDC, mais pourquoi avoir mis l'accent sur ce thème cette année?
Je pense que un slogan peut-être pour certains, mais pour nous en tant que ministère du Genre, c'est pas un slogan, c'est une action, c'est une détermination de dire que nous voulons chacun là où il est, nous lever et nous engager pour que les violences faites aux femmes puissent cesser. En tout cas, c'est un engagement. C'est un engagement que nous avons pris. Et comme vous le savez, le 19 juin dernier, le chef de l'État a lancé la campagne tolérance zéro immédiate. C'est pour dire que c'est une détermination, un engagement de tout un pays pour lutter contre les violences et lutter contre les violences à tous les niveaux et dans tous les milieux. Voilà pourquoi nous travaillons avec toutes les parties prenantes, donc ça veut dire que nous travaillons avec tous les acteurs de la vie nationale pour que les violences cessent.
Plusieurs initiatives ont été menées pour lutter contre les violences faites à la femme et à la jeune fille, mais très souvent ces initiatives s'arrêtent en cours de route faute des moyens. Qu'est-ce que le gouvernement prévoit, Madame Kamwania, pour que après ces 16 jours d'activisme, que toutes les actions qui seront menées dans ce sens soient soutenues financièrement par le gouvernement?
Madame, je voudrais dire ceci, que la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est un processus, c'est une action qui demande beaucoup d'efforts à fournir dans tous les domaines de la vie. Et comme vous le savez, au niveau du gouvernement, nous avons une stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et dans cette stratégie, nous avons des piliers. Il y a le pilier que nous appelons la prévention. Ça veut dire que la prévention consiste à la sensibilisation de toutes les couches de la population contre les violences qui sont faites, soit même aux femmes et également même aux hommes. Et nous avons les piliers qui s'appellent la participation, la protection. Et là, c'est la lutte contre l'impunité. Ça veut dire qu'il y a des acteurs dans chaque pilier. Et l'autre pilier, c'est la réinsertion socio-économique. Ça veut dire que lorsqu'on a été victime des violences, on a besoin d'une assistance, et là, c'est ce volet-là. Et madame, je peux vous dire que, étant donné que c'est une action commune qui doit être menée par plusieurs acteurs, chacun en ce qui concerne, par exemple, le domaine médical, ce sont les hôpitaux qui s'en occupent. Si c'est le domaine juridique pour la lutte contre l'impunité, madame, vous comprenez que c'est le ministère de la Justice avec tous les acteurs qui s'en occupent. S'il s'agit de la réinsertion, il y a aussi des acteurs qui s'en occupent. C'est pour dire que l'action gouvernementale est coordonnée au niveau du ministère du Genre, Famille et Enfants, mais il y a d'autres acteurs qui interviennent comme le volet médical, le volet juridique. Donc on ne peut pas dire que ça a échoué. Ça veut dire que dans chaque secteur, il y a des fonds qui sont destinés à pouvoir couvrir les besoins selon qu'on est dans le secteur médical, qu'on est dans le secteur juridique ou on est dans la prévention. Donc, c'est pour dire que c'est une action qui est en train d'être faite et qui, généralement, nous avons des bons résultats parce que nous commençons déjà à voir que même vous, vous vous êtes levé. En organisant cette émission, c'est aussi un signe que vous vous êtes levé, que vous n'êtes pas resté en arrière pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles.
Madame Esther Kiamouania, vous avez parlé de la sensibilisation. On a comme l'impression que la sensibilisation se fait beaucoup plus pendant le mois de mars, mois dédié à la femme, et aussi lorsqu'on organise les 16 jours, par exemple, d'activisme contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Mais après, on ne sent pas tellement cette sensibilisation sur le terrain.
Bon, madame, je crois que si vous allez, je vous donne l'exemple du ministère de l'enseignement primaire secondaire qui a un programme pour les élèves sur la sensibilisation dans les écoles sur les violences basées sur le genre. Déjà, tout au long de l'année, ces ministères sensibilisent les élèves, les enseignants. Donc, ils ont des modules de formation. Ils passent dans les différentes provinces pour former, avoir, ils ont des équipes de formateurs sur les violences basées sur le genre. Ça, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Donc, c'est pour dire que on ne sensibilise pas seulement pendant les 16 jours d'activisme, mais nous sensibilisons également le 8 mars parce qu'en fait, c'est la journée dédiée à la femme, mais c'est un travail que nous faisons tous les jours au quotidien. Et je voudrais encore rappeler ici qu'au niveau du ministère du genre, famille et enfants, nous avons une agence nationale de lutte contre les violences faites aux femmes qui a cette dimension-là et qui le fait. Il le fait dans les marchés, il le fait à travers des émissions, il le fait, en tout cas, tous les canaux sont utilisés. Donc c'est pour dire que c'est déjà quelque chose que nous sommes en train de faire. Donc, il n'y a pas que le 8 mars ou les 16 jours d'activisme. Mais là, ce sont des journées comme la journée de la femme, internationale de la femme. Ça, c'est parce qu'on voudrait mettre un accent spécial pour cette journée consacrée aux droits des femmes. Et les 16 jours d'activisme, c'est parce que ce sont les 16 jours qui sont consacrés à l'élimination de toutes les formes de violences faites aux femmes. Donc, on doit mettre un accent particulier pendant ces jours-là. Je crois que c'est ce qui fait la différence.
Selon la représentante de l'ONU Femmes en RDC, les femmes et les filles subissent encore des violences et des discriminations multiples, d'où il faut attirer l'attention sur ce fléau afin d'y mettre fin. Madame Esther Kiamouania, quel est le bilan de la RDC dans la lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille?
Moi, je peux assister à vous dire qu'il y a des avancées significatives. Des avancées significatives dans le sens que nous avons des cadres normatifs, des lois qui punissent les violences faites aux femmes. Nous avons des structures qui prennent en charge les femmes victimes de violences. Nous avons des structures qui prennent en charge. Donc c'est pour dire, nous avons tous ces mécanismes, nous avons par exemple la stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Donc tous ces éléments me font dire qu'il y a des avancées significatives qu'il ne faut pas ignorer, bien que les violences pourront toujours continuer, mais à des proportions moindres par rapport... Parce qu'aujourd'hui, madame, les violences qui n'étaient pas dénoncées, qui aujourd'hui sont dénoncées, c'est déjà une avancée. Les auteurs de violences qui sont punis, quel que soit leur niveau, quel que soit l'endroit où ils sont, donc ils sont punis. Donc ils sont, on dit, inquiétés parce que déjà, du fait qu'il y a la loi qui est là pour punir, du fait qu'il y a des mécanismes qui prennent en charge, déjà ce sont des avancées que nous pouvons dire, en tout cas elles sont notables et vont nous aider à pouvoir aller de l'avant et à éradiquer ces fléaux qui sont les violences faites aux femmes. Bien sûr que ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo, les violences faites aux femmes sont un peu partout à travers le monde, mais pour nous, nous pensons que le bilan, en tout cas, progresse, qu'il est positif dans le sens que nous avons des outils nécessaires pour lutter contre ces fléaux et que nous allons continuer pour avoir vraiment des résultats très probants.
Merci, Madame Esther Kiamouania. Nous vous gardons encore dans cette émission. Le temps pour nous de donner la parole à Bénédicte Bassangui Zainabo membre de la société civile, coordonnatrice adjointe de la Fédération des jeunes entrepreneurs du Congo, activiste au sein des Ligues de jeunes, Bénédicte Bassengi Zainabo, quelle lecture vous faites de l'organisation de ces 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre?
Merci beaucoup pour la préoccupation, madame. Certainement, je ne vais pas dire qu'on est stand-by. Je vais dire qu'il y a des avancées telles que ma prédécesseur a bien souligné, madame Esther. Certainement, par rapport à vous, je peux dire qu'il y a des avancées. Mais aussi, bien que je peux signaler qu'il y a des avancées, mais moi, je peux toujours nous encourager tous de continuer à militer parce que c'est un processus qui ne va pas se terminer en un clin d'œil. Donc, ça demande le fort de tout et chacun pour que nous puissions continuer et voir tout est possible. Comment est-ce qu'on mettra fin à ces fléaux, aux violences basées sur les genres et surtout aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles?
Alors, en tant que membre de la société civile, coordonnatrice adjointe de la Fédération des jeunes entrepreneurs du Congo, activiste au sein des ligues des jeunes, quel est votre apport dans la lutte contre les violences faites à la femme, mais beaucoup plus à la jeune fille? J'imagine que vous êtes encore jeune.
Exactement, je suis encore jeune. Pour moi, je voudrais ajouter, au-delà de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui comme sensibilisation, la violence faite aux femmes, aux filles, aux jeunes filles, se retrouve un peu dans plusieurs domaines et un peu partout. Mais je me dis, on peut bien rester en train de sensibiliser, c'est vrai, changer la mentalité des gens, des auteurs qui font de violence aux femmes. Changer leur mentalité, c'est bien, mais aussi aller dans un autre aspect pour aider la jeune fille à être à un certain niveau autonome, c'est encore mieux. Si nous prenons par exemple le cas d'une jeune fille qui part chercher un emploi seulement parce qu'elle ne sait pas se prendre en charge par elle-même et qu'elle ne parvient pas à gagner cette opportunité d'être engagée et qu'on sort sans pour autant passer par les avances d'harcèlement sexuel ou bien par des violences ou par des demandes de ces genres, à un certain niveau, ça ne permet pas bien qu'on peut sensibiliser, que ce soit aux côtés de la jeune fille, que ce soit aux côtés de cet auteur. À un certain niveau, on ne sera pas en train d'aider la jeune dame. Je voulais demander à madame et à tous nos auditeurs, surtout au gouvernement congolais, au-delà de sensibiliser, au-delà de prévoir le droit, au-delà d'avoir des stratégies, de penser aussi comment outiller les jeunes dames, les jeunes femmes, pour leur auto-prise en charge, en les aidant dans le cadre de l'entrepreneuriat.
Bénédicte Bassengi Zainabo, vous êtes jeune. Est-ce que vous sensibilisez les jeunes filles comme vous lorsque vous organisez vos activités?
Exactement, nous le faisons au quotidien et ça n'a pas commencé cette année. Il y a déjà des années passées que nous avons déjà commencé avec des sensibilisations et au fur et à mesure, on essaie un peu de conscientiser d'autres filles, d'autres femmes comme nous, à aller de l'avant, à se faire confiance et à se prendre en charge aussi, à dénoncer lorsqu'il y a ce genre de cas. Et nous pensons et nous sommes en train de voir des avancées.
Vous êtes en train de voir des avancées. La sensibilisation que vous faites, je pense que c'est du bénévolat. Est-ce que vous avez besoin du soutien des autorités, du gouvernement pour mener vos actions?
Certainement, on aura toujours besoin du soutien du gouvernement. Au cas où nous trouvons en mi-chemin ces cas-là de violence basée sur les femmes et qu'on sort, on aura besoin du gouvernement, surtout d'abord dans la réprimande, qui puisse nous aider à sanctionner ces gens, les auteurs qui nous avaient appris avec la fille qui a été violée par son professeur. Mais aussi, nous aurons encore besoin de l'appui du gouvernement dans le cadre d'aider les jeunes filles dans l'entrepreneuriat. Et on a toujours besoin de l'appui du gouvernement dans le cadre des réprimandes pour réprimander les auteurs qui sont toujours à la base de violences basées sur les genres, violences faites aux femmes et consorts. Mais aussi, d'un autre côté, on aura besoin de l'appui du gouvernement pour aider, pour tenir main forte aux femmes qui essaient de faire de petites choses, de petits commerces et consorts dans les vies de ces provinces. Donc, pour dire en bref, en général, on a et on aura toujours besoin de l'appui du gouvernement.
La réalisation me signale que nous n'aurons plus Maître Louko comme c'était prévu. Au départ, il est injoignable. À la place, nous avons Maître Charles Mouchizi, juriste et expert dans le domaine du genre et violence sexuelle. Charles Mouchizi, bonsoir. Charles Mouchizi, bonsoir. Et apparemment, il n'est pas encore en ligne. En attendant, on va prendre Madame Esther Kamwanya. On va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Kisangani, ingénieur Bob Boluta.
Ingénieur Bob Boluta depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Question en rapport avec la violence sexuelle et la discrimination liée au genre a fait l'objet de plusieurs ateliers qui ont donné plusieurs pistes de solutions qui malheureusement souffrent dans des tiroirs. À mon humble avis, il est souhaitable de sensibiliser et éduquer la femme afin d'éviter les violences et discriminations. Analysons ensemble cette observation qui se résume à une question. Une femme qui s'habille à moitié nue, qui utilise les fesses comme sa défense ou qui se contente de séduire pour réussir ou pour gagner, évite-t-elle de se faire violer? Moi, je pense que le gouvernement doit insister sur l'éducation de la femme. Quant à l'intégration de la femme en politique, cela ne doit même pas faire l'objet d'un débat car nous savons à quel point elles sont limitées. Et néanmoins, je dois avouer quand même les performances de certaines parmi elles, des cas rares d'ailleurs.
Madame Esther Camoignard, que pensez-vous de ce point de vue de l'ingénieur Bob Boluta qui nous a appelé depuis Kisangani dans la province de la Tchopo?
En fait, moi c'est un peu sa réaction. Bon, on ne peut pas dire c'est parce que les femmes s'habillent à moitié qu'elles doivent être victimes de violence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, il y a des projets qui sont faits. Je crois que la question de la lutte contre les violences, ça doit être une question commune, une question de toute une nation qui s'élève pour lutter contre un fléau qui détruit une nation. Je crois que les femmes ne doivent pas être victimes de violences parce qu'elles s'habillent à moitié ou parce qu'elles vont courtiser un enseignant pour avoir des points. Parce qu'en fait, il y a l'éthique professionnelle aussi qui doit guider chaque acteur là où il est, dans chaque secteur de la vie. C'est-à-dire, lorsqu'on est enseignant, il y a l'éthique professionnelle qui vous autorise pas à faire un certain nombre de choses. Lorsque vous êtes chef dans un établissement, que ce soit public, que ce soit une entreprise, donc il y a cette éthique, il y a cette déontologie qui ne vous permet pas de poser certains actes. Donc ça doit être ça. Donc les valeurs qui doivent conduire toute une nation, ce sont les valeurs de probité morale, les valeurs d'intégrité et autres. Ce sont ces valeurs qui doivent être donc véhiculées et non pas parce que la femme a porté un décolleté qu'elle doit être victime de violences. Non. Donc nous devons enseigner à tous les niveaux. Donc déjà, ça doit commencer à la maison, des valeurs morales qui doivent conduire tout un peuple. Alors donc, à mon avis, c'est pas le fait d'être habillé de telle ou telle autre manière qui doivent mettre les femmes dans l'insécurité.
Merci, Madame Esther Kiamonia. Charles Mouchizi, vous êtes en ligne?
Bonjour, madame.
Bonsoir. Vous êtes juriste et expert dans le domaine du genre et violences sexuelles. 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme et à la jeune fille ont été lancés depuis jeudi 25 novembre dernier. Quelle lecture vous faites de l'organisation de ces 16 jours d'activisme?
D'abord, une sorte de déception que nous soyons plutôt en présence d'une sorte de mimétisme, de répétition purement cérémoniale, sans aucune évaluation sérieuse de ce que les premières, les deuxièmes, les troisièmes séries de sessions d'activisme ont pu réellement apporter sur les réformes structurelles, et tout particulièrement dans le domaine de la répression des violences sexuelles en République démocratique du Congo. Mais loin, plutôt de ne parler que de la répression des violences sexuelles qui dépend plutôt de tout un système de justice qui ne fonctionne pas, on peut aussi parler de l'égalité de sexe et plutôt l'autonomisation de la femme qui plutôt est victime de violences sexuelles, souvent à cause de sa faiblesse économique, parce qu'elle dépend beaucoup. Et donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on puisse mettre sur la table un programme d'évaluation de toutes les séries de 16 jours d'activisme qui ont été déjà organisées par le pays, et qu'on se dise, voici les recommandations qui ont été formulées à l'une ou l'autre, et voici le niveau d'exécution de ces recommandations, pour qu'on sache si vraiment ça vaut la peine de continuer à s'attacher à cette activité qui a son importance, j'en conviens, mais dont l'importance ne peut être jugée que par sa capacité, d'influencer les politiques sectorielles.
Pour Madame Esther Kamoania, directrice de cabinet de la ministre du Genre, Famille, Femmes et Enfants, depuis que ces activités ont commencé à être organisées, elle estime qu'il y a des avancées très significatives dans la lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Vous nous dites que vous êtes un peu déçue. Répétitions cérémoniales, selon vous, sans évaluation sérieuse, alors que du côté du gouvernement, on pense que ces activités ont poussé le gouvernement à mettre en place des stratégies pour lutter efficacement contre les violences faites à la femme et à la jeune fille.
À mon avis, ce n'est pas le cas, et je parle court d'expérience d'avocat, mais aussi de membres de la société civile congolaise, parce que rien qu'à voir la stratégie genre du pays qui n'a pas été remise, à jour, malgré toutes les évolutions contextuelles depuis 2010, on ne sent pas exactement ce que ces journées d'activisme ont pu apporter dans la réforme normative et dans la réforme institutionnelle, ou plutôt dans les réformes structurelles qu'on peut dire, par exemple, dans le domaine de la justice. Est-ce qu'on a des statistiques, des jugements qui ont été prononcés par les cours et tribunaux au fur et à mesure de tous ces cycles de journées d'activisme, et combien de jugements ont été entièrement exécutés? Quand je parle d'exécuter, je ne vois pas seulement le fait de jeter le bourreau en prison, je vois aussi la réparation à laquelle a droit la victime. Combien de jugements ont été exécutés entièrement au point d'aboutir à la réparation des victimes? Peut-être que je fais un peu d'amalgame, mais tout cela rentre dans la promotion du genre, dans la promotion de la protection des droits de la femme et dans la promotion de l'égalité du sexe. Et donc, s'il n'y a déjà pas à la base de la justice, si ces recommandations n'ont pas été exécutées, n'ont pas abouti à des décisions de justice qui soient pédagogiques pour essayer d'éduquer les futurs délinquants, qui n'ont pas abouti à des réformes sérieuses, et là je parle de la stratégie genre qui date de 2010 et qui n'a toujours pas été actualisée jusqu'à ce jour, je ne vois sincèrement pas ce pourquoi on peut vanter ces activités qui pour moi demeurent fondamentalement bonnes, mais qui, dans leur mise en œuvre, sont purement cérémoniales, pas plus.
Maître Mushizi, en parlant de la promotion, le gouvernement congolais, à travers le ministère du Genre, Famille, Enfants, en partenariat avec ONU Femmes, se fixe comme objectif la promotion de la parité et l'autonomisation des femmes en RDC. Sur le plan politique, Maître Mushizi, les femmes congolaises ne sont pas très impliquées dans la politique du pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir la participation politique des femmes en RDC?
D'abord, il ne faut pas forcer les choses. Nous devons rester congolais, nous devons demeurer dans nos cultures et dans nos habitudes de tabou et de respect. Je ne sais pas si vous avez une image différente de ce que c'est la politique en RDC, en dehors de la tricherie, du vol, de détournement. Et donc, c'est normal que certaines femmes qui ont peur d'être salies dans la politique refusent d'y aller. Bon, ça c'est une paire de manches. Mais sur l'autre côté, je ne pense pas qu'une politique totalement dominée par des machos puisse avoir une attention sur la femme. Et cette attention sur la femme ne devrait pas simplement commencer sur le milieu professionnel et particulièrement le milieu politique. Elle devait commencer par la promotion de l'éducation de la jeune fille. Et de cette manière, on évaluerait peut-être de manière cyclique tous les 5 ans ou tous les 10 ans comment on évolue dans la promotion de la femme. Tout brusquement comme ceci, en poussant les femmes qui n'ont aucune vocation politique par ailleurs à faire la politique parce qu'on veut avoir du numérique, on veut avoir plus le nombre de la qualité et la volonté, c'est fausser le jeu. Et c'est pour cela que je suis en train de parler de l'obligation pour la République de mettre à jour sa stratégie genre, commençant par la naissance, l'école, jusqu'au milieu professionnel, pour que de manière cyclique, tous les 16 jours d'activisme, on puisse avoir un moment d'évaluation des évolutions palpables qu'on peut vanter et sur base duquel on peut reconstruire pour le lendemain. Que ce soit l'accès à l'école, que ce soit l'accès à la justice, que ce soit l'accès aux fonctions de l'administration publique, pas beaucoup de secrétaires généraux non plus, il n'y a pas beaucoup de directeurs non plus dans la fonction publique. Et donc, il ne faut pas seulement penser à la politique active comme poste des décisions politiques, mais en tout cas un secrétaire général de l'administration, je ne vois pas en quoi il n'est pas politique. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir un regard holistique sur ce que nous voulons avoir comme image de notre femme demain. Est-ce que moi, aujourd'hui, Charles Mouchizi, avocat, je serais heureux de voir ma femme faire la politique aujourd'hui? Je ne suis pas très sûr qu'il y ait beaucoup d'hommes qui puissent encourager leur femme à faire la politique, notamment à cause des images macabres qui caractérisent l'exercice de la politique chez nous. Et la politique n'est pas le seul domaine où les femmes peuvent effectivement s'épanouir. C'est parce que peut-être la politique c'est le seul domaine où on est le mieux rémunéré, le mieux payé, mais c'est un domaine justement qui n'a pas particulièrement besoin de conjuguer sur base de l'équation homme et femme. C'est une question de vocation personnelle, mais aussi d'engagement individuel. La société n'est pas là pour pousser les femmes à faire la politique. Chaque personne va pouvoir se dire, oui, ça m'intéresse, je vois que j'ai les capacités et j'entre. Mais pour être sincère, je ne suis pas très sûr qu'il y ait beaucoup de femmes de qualité pour qui la politique représente quelque chose d'attrayant.
Maître Mouchizi, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kolwezi.
Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Je crois que pour promouvoir la participation politique des femmes et diminuer très sensiblement la violence faite aux femmes et jeunes filles, il faut, pour ce qui concerne la violence basée sur les genres, renforcer la loi à la matière et veiller à l'applicabilité de celle-ci. Multiplier la sensibilisation. Pour ce qui concerne l'aspect politique, premièrement, la femme doit s'affirmer car l'électorat important de ces pays est constitué des femmes. Donc ces dernières doivent capitaliser cette opportunité pour s'imposer. Deuxièmement, encourager les formateurs politiques à aligner aussi les femmes lors des concours politiques. Il n'y a pas de solution miracle que ça.
Brève réaction, Maître Mouchizi.
Je crois que là, c'est encore prendre de manière très sectaire, très très partielle, le problème auquel fait face le pays. Je ne sais pas si les gens se rendent compte qu'en promouvant l'université, les femmes à l'université, en leur donnant des facilités dans une sorte de discrimination positive, par exemple en donnant aux femmes des bourses d'études, si vous pensez qu'on n'aura pas de femmes architectes qui peuvent obtenir des bourses pour aller étudier au Japon et revenir être des ingénieurs civils, BTP et autres. Je ne pense pas qu'il faille se limiter à la participation politique de la femme pour croire avoir promu la femme. Et j'ai l'expérience pour avoir été plusieurs fois conseiller politique, conseiller juridique dans des cabinets. Je sais que même en politique, les femmes subissent les mêmes sollicitations que dans tous les autres secteurs. Et donc, renvoyer forcément les femmes en politique pour augmenter le numérique ne résout absolument rien, mais vraiment rien du tout. Et je donne pour preuve, je ne sais pas combien de femmes en politique, depuis 1960 jusqu'à ce jour, ont pu être à la base des initiatives structurantes de l'État, simplement parce qu'elles sont femmes et qu'elles sont en politique. Je n'en connais pas beaucoup. Je connais des femmes qui ont été ministres du Travail dans ce pays pendant une dizaine d'années, mais pour lesquelles on ne connaît pas beaucoup de performances non plus. On a eu des femmes... La question n'est pas ici d'avoir des femmes numériquement représentatives dans l'une ou l'autre institution. La question est de regarder la chaîne depuis la naissance, passant par la formation jusqu'à l'accès à au poste d'emploi, comment la femme est traitée avec justice par rapport aux hommes pour qu'elle ait les mêmes chances et peut-être pour que dans certains autres cas, elle bénéficie d'une discrimination positive, notamment pour accéder à l'école. La politique chez nous, ce n'est déjà pas un espace où les gens vont pour travailler. Et donc, connaissant à peu près ce que c'est la politique chez nous, je ne vois pas pourquoi on encouragerait particulièrement les femmes à faire la politique.
Merci. Merci.
Il se montre dans la boue comme tout le monde et puis c'est tout.
Bénédicte Bassangui Zainabo, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Albert Kolembela Bokomba depuis Kisangani. Mettre fin à la violence aux femmes est une bonne idée car depuis plusieurs décennies, les femmes font face aux différentes sortes de violences, mais les plus récurrents sont liés au sexe et à la proie. Promouvoir la parité et l'organisation des femmes partout dans le monde doit en premier lieu être la préoccupation des femmes et aussi l'accompagnement des hommes. À ce jour, les femmes subissent des violences et des discriminations, surtout dans les milieux ruraux, sans que les auteurs de ces actes puissent être poursuivis. À mon avis, pour mettre fin à ce fléau, le gouvernement devrait appliquer les mêmes mesures de la lutte contre la discrimination et la violence partout dans le pays pour inquiéter les auteurs de ces actes.
Bénédicte Zainabo, Que pensez-vous de la réaction de Albert Kolombela qui nous a appelé depuis Kisangani, qui estime qu'à ces jours, les femmes subissent des violences et des discriminations, surtout dans les milieux ruraux, sans que les auteurs de ces actes ne soient poursuivis?
Exactement tel que je intervenis auparavant, je l'ai bel et bien dit que le gouvernement doit nous aider, surtout dans la répression des auteurs et de ces genres de violences. Certainement, dans des milieux ruraux, beaucoup de femmes, filles et mamans subissent des violences, même à tous les niveaux possibles, sans pour autant avoir la chance d'avoir des suivis et avoir la chance de voir les auteurs être sanctionnés.
Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour que les sanctions soient vraiment appliquées à tous les auteurs de violences sur les femmes et les jeunes filles?
Certainement, je sais que même la ministre du Genre pourra me dire que ça sera une processus, ça sera toujours une processus. Pour moi, je peux dire, comme ici dans nos villes, même au niveau de la capitale, nous faisons trop de sensibilisation, moi je pourrais proposer au gouvernement congolais de mettre un mécanisme aussi qui pourra nous permettre, qui pourra permettre à ce que d'autres membres de la société civile puissent se déplacer jusque dans des milieux ruraux, non seulement pour sensibiliser, mais aussi pour répertorier et sentir à quel niveau les degrés, il y a des degrés de violence, pour ensuite rapporter les rapports au niveau national afin que le pouvoir puisse voir à la mesure du possible comment est-ce qu'ils ont aussi réprimandé tous ces auteurs.
Une certaine opinion, Bénédicte Zainabo, estime que le contexte socio-culturel de la RDC ne facilite pas le travail des défenseurs des droits de la femme. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est un peu difficile, tel que s'il a appelé de Kisangani en disant qu'il y a des cas où, par exemple, tel que vous étiez en train de dire au départ qu'on devait sensibiliser les femmes pour entrer peut-être dans le monde politique. Et j'ai écouté l'un de nos intervenants dire que peut-être il peut arriver qu'il y a un mari qui ne va pas accepter que sa femme aille faire la politique. Juste un titre d'exemple que je viens encore d'élucider ces termes-là. Certainement, il y a beaucoup de tabous, si je peux le dire, dans nos cultures, qui feront à un certain niveau, qui feront à ce que la femme prenne encore une position de faiblesse et qui, par la suite, accentue davantage les violences basées sur les femmes. Certainement, tel que je l'ai dit au départ, il faudrait vraiment une forte sensibilisation, surtout dans nos milieux un peu ruraux, pour que nous puissions voir, pour qu'ils puissent arriver au niveau de lever cet équivoque.
Merci Bénédicte Zainabo. Nous sommes dans la partie conclusion de notre émission. Esther Kamwanya, directrice de cabinet de la ministre du Genre, Famille, Femmes et Enfants. Comment vous répondez à l'analyse de Maître Mushizi de tout à l'heure? Il est un peu déçu par rapport à l'organisation des séjours d'activisme contre les violences faites à la femme sans évaluation sérieuse. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Enfin, je sais. Moi également, je suis un peu déçu. Du fait que, d'abord, il y a la première chose. Il a parlé d'une stratégie qui n'a pas été révisée, mais moi, je voudrais informer l'opinion que depuis 2019, nous avons révisé la stratégie nationale sur la lutte contre les violences basées sur le genre qui a été adoptée en 2020 par le conseil des ministres qui est en vigueur maintenant. Ça veut dire que cette révision a été faite sur base des évaluations qui ont été faites, non pas seulement des évaluations au niveau de Kinshasa, mais dans toutes les provinces, ce sont des évaluations qui ont été faites avec l'ONIFAM, avec tous nos partenaires qui ont participé à cette évaluation. D'ailleurs, c'est sur base de cette évaluation que nous avons modifié l'actuelle stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, il y a des évaluations qui sont faites. Je voudrais, à titre d'exemple, dire que chaque année, il y a des évaluations qui sont faites, non pas seulement au niveau national, mais au niveau régional et au niveau international. Donc, la question de la violence faite aux femmes, c'est un des piliers des 12 domaines prioritaires du programme de Beijing. Donc chaque année, il y a une évaluation. Et d'ailleurs, chaque niveau, on vous exige un rapport de ce qui a été fait, les avancées, les contraintes, les défis à relever. Donc je voudrais lui rappeler que ce sont des évaluations qui ont été faites. Sûrement, s'il a besoin de tous ces rapports, en tout cas, le ministère du Genre, Famille et Enfants serait disposé à lui fournir tous ces éléments-là.
Alors, il faut
conclure. Quel document qui n'a pas été révisé dont il parle. Mais moi, je tiens à le dire, et si possible, de lui envoyer même la nouvelle stratégie révisée, de lui envoyer cela.
Madame Kamwanya,
nous avons des exemplaires qui sont disponibles pour cela.
Madame Kamwanya, nous sommes à la fin de l'émission, il faut conclure. Votre conclusion.
Ma conclusion, c'est pour dire que la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est aussi, ça entre dans la théorie du changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une longue lutte. Les impacts viennent progressivement. Et ça, c'est ce que je voudrais dire à tous nos auditeurs, à tous les acteurs qui travaillent, que c'est un travail à long terme qui demande les changements de comportement. Et pour cela, il faut le travail de tout le monde et à tous les niveaux. Voilà pourquoi nous avons plusieurs volets dans la lutte contre les violences, parce qu'il faut la prévention, il faut la protection, il faut l'assistance psychosociale, il faut l'assistance, la réinsertion socio-économique. Donc ce sont tous ces éléments sur lesquels il faut travailler.
Merci.
Et au fur et à mesure, on a des résultats positifs.
Merci Madame Esther Kamwanya. Bénédicte Bassangui Zainabo, votre mot de la fin. Bénédicte Zainabo est partie. Maître Charles Mouchizi, votre conclusion.
Je salue Madame Kamwanya, que je connais depuis qu'elle était au secrétariat général des affaires sociales. C'est une belle intervention et une information pour moi, parce que j'ai certainement le document ancien sur la stratégie nationale. Toujours, c'est très très bien, félicitations que ce travail ait été abattu, ça je n'étais pas au courant. Mais disons plutôt que, exactement comme je le disais depuis le début, il faut avoir un regard holistique dans les réformes qu'on veut faire pour vaincre les violences sexuelles et les violences sexistes, pour promouvoir le genre, l'égalité de sexe, etc., l'autonomisation de la femme. Et Madame Kamwanya, je ne vais peut-être pas commencer une polémique là-dessus parce qu'on termine l'émission, je sais que le gouvernement n'investit pas grand-chose dans ça. Et ça, c'est le point de départ. La ligne budgétaire qui est réservée au ministère en charge du genre est totalement insignifiante et des fois elle n'est même pas exécutée. Et donc, si nous voulons mettre en place des politiques cohérentes, nous les prenons de manière holistique depuis la naissance de la fille jusqu'à son accès à la profession, peut-être jusque même à sa mort, mais nous y investissons aussi des ressources financières suffisantes pour être sûr qu'elle est appuyée dans ses études, qu'elle est appuyée dans ses choix professionnels aussi, qu'il lui ait donné des chances. Lorsque la société, sur base des stigmatisations particulières, ne lui donne pas ses chances égalitaires par rapport à l'homme pour évoluer.
Merci Maître Charles Mouchizi, Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Donna Madimba qui était à la réalisation. La mise en onde était assurée par Paul Badianiama, supervision pour l'équipe et la Mondo, présentation et coordination, Kéline Couté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.